Bonjour, bonjour, merci d'être venu. On va démarrer bientôt. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Est-ce qu'on peut faire un petit peu. Je vais faire de la place ici en haut. Juste pour être visible, pour que toutes les personnes qui arrivent soient visibles et entendues par le micro qui est en Bluetooth. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous m'entendez? Il faut que je me mette là. Alors, je vais mettre le micro moins près de la bouche pour pas que ça grésille. Si ça vous va, si vous entendez bien. Alors, on se réunit aujourd'hui parce que, comme vous le savez, le contexte est très difficile. Il y a eu l'assassinat d'un adolescent de 17 ans. Un assassinat qui est permis par des lois, la loi de 2017 permissive qui permet le droit de tuer. Ce crime a été perpétré rendu possible grâce à cette loi, mais nous savons très bien que ça fait des décennies que les quartiers populaires, que les jeunes prolétaires, les jeunes précaires des quartiers sont traités différemment par rapport à toute la société, que des personnes racisées et quand elles sont jeunes ne sont pas prises pour des enfants, elles sont considérées comme des délinquants, et c'est ce qui permet à ce racisme qui est assez diffus dans notre société, ce qui permet à certaines personnes encadrées par des lois permissives de se sentir légitimes à tirer comme ça à bout portant sur des enfants. Aujourd'hui, nous voulions donner la parole particulièrement à des collectifs qui sont silencés la plupart du temps, sur des luttes qui sont silencées, à qui on ne donne jamais une place publique ou très encadrée juste dans les faits divers. Là, on voit bien avec cet dernier événement, cet assassinat, que le problème est profond, que la situation est grave, que suite à cette année qui nous a placés dans le spectacle dramatique de luttes sociales qui n'ont pas abouti alors que le gouvernement est passé en force, s'est donné du coup tout un encadrement de loi qui lui a permis de passer en force, de nier la réalité des choses. C'est que la plupart des gens sont contre la réforme des retraites. Il y a eu toute cette séquence-là où il y a eu un déni de démocratie dans cette société, et elle se finit avec un crime comme s'il fallait passer à autre chose, et un crime sur un enfant, sur un adolescent de 17 ans qui réveille tout le racisme d'État et l'autoritarisme de ce gouvernement. Voilà le contexte qui nous amène ici à faire donc prendre la parole à Justice et Vérité pour Babacar, notamment ici à Rennes, parce qu'il y a eu aussi ici, localement, beaucoup d'assassinés, beaucoup de gens victimes des violences policières et des crimes perpétrés par les agents de l'État. Nous avons évidemment Babacar Gaye, nous avons Maëva, nous avons Sacha et Alan dans notre localité, à qui il faut rendre hommage. Awa va prendre la parole tout à l'heure pour en parler. Ensuite, il y aura les maires isolés de Blône qui prendront la parole. La coordination des cartes du quartier sud du Blône. On va dire un mot pour le collectif qui vient se monter antiraciste révolutionnaire de Rennes. Si quelqu'un de Front de Mer, Fatima, devait être là, mais je ne sais pas si elle est dans la foule, en tout cas, on aurait souhaité qu'elle prenne la parole. Il y aura un site solidaire 35, enfin solidaire antiraciste, le groupe qui est en train de se monter au sein de Solidaire, qui prendra la parole. Kouné, oui, Kouné ensuite, si Régine est dans le coin, je ne l'ai pas vue. Ensuite, il y aura tous les camarades et proches qui pourront dire un mot, les syndicats. Voilà. Je vais déjà passer le micro à Awa pour qu'elle nous parle des hommages aux morts de Rennes. Bravo.
Bonjour tout le monde. Je m'appelle Awa Gay. Je pense qu'il y a beaucoup qui m'ont connu déjà à Rennes ici. Je suis la sœur de Babacar Gay qui a été assassinée le 3 décembre 2015 à quartier Mopa à Rennes. Aujourd'hui, je suis là parce que c'est important pour moi concernant l'assassinat de Maëlle, qui est tout le monde vit cette vidéo, comment on l'a assassinée en manière dégueulasse, une manière raciste de la part de la police, comme celle-là de Babacar. Il y a 7 ans, ils ont assassiné Babacar, 5 balles, 100 fois. Toujours j'ai dit que c'est un racisme d'État, parce qu'on ne peut pas assassiner quelqu'un 5 balles pendant qu'il était en crise angoisse. Je pense que Maëlle, si on n'a pas vu cette vidéo-là, ça ne va pas parler beaucoup. Il fallait que les familles va battre comme nous on fait les familles des victimes avant. Je suis aussi une des membres des réseaux entre-aides où il y a toutes les familles des victimes, les mutilés et blessés. La liste est longue. Si on masse pour un, on masse pour tous. Parce que sachez que ce qui arrivait aujourd'hui à Babacar et tant de d'autres, Emmaël, ça peut vous arriver demain. C'est pour ça qu'il faut qu'on continue à se battre, on se soude ensemble. Parce que les États, ils chassent nous diviser. Il ne faut pas qu'on donne cette occasion. Il faut qu'on continue à se battre jusqu'au bout. Bien sûr, je ne peux pas parler à mon frère sans parler à Alan, à Samalo, qui est tué par la police. Sans parler à Angelo Garand, qui veut assassiner 5 balles aussi. Par un racisme d'État, parce qu'Angelo Garand, elle était genre de voyage. Je ne peux pas parler sans Maëva, qui fait assassiner par la police. Je ne peux pas parler aussi pour tout le monde, parce que la liste est longue. Si je citais tout le monde, j'ai peur d'oublier quelqu'un. Mais la liste est très longue. Ce n'est pas la première fois, ni la dernière fois. La police, ils sont censés nous protéger, mais on ne nous protège pas. Ils nous tuent, ils nous assassinent. Ils sont continués à mentir. Même s'il y a des vidéos, ils sont continués à mentir. Les vidéos parlent. Ils parlent, on voit. Ils ne sont pas, même pas devant la voiture. Elle est où les légitimes défenses? Comme celle-là de Babacar. Où les balles venaient de. Pas venues de. Où les balles. Aucune balle ne venait de face. Elle est où les légitimes défenses? Comment on peut me dire que l'affaire de Babacar est terminée? Je ne peux pas accepter ça. Depuis au début, je continue à me battre pour la mémoire de mon frère, pour que mon frère ne tombe pas dans le lit. Parce que le juge, il y a beaucoup d'éléments importants. Moi, ça fait 7 ans. C'est moi, Awa, qui a mené les enquêtes. Ce n'est pas eux qui menaient les enquêtes. Parce que c'est moi qui demande les éléments importants. Mais jusqu'à aujourd'hui, ils ne sont pas capables de répondre à mes questions. Et on peut me dire que l'affaire est terminée. Non, je n'accepte pas ça. J'ai lancé un appel pour qu'ils répondent à mes questions. Parce qu'il y a beaucoup de questions que j'ai posées à eux, ils ne m'ont jamais répondu. où j'ai demandé une expertise médico-légale, où j'ai demandé une morpho-analyse des gouttes de sang pour savoir Babacar, est-ce qu'il est mort entre le 7e étage ou 9e étage. Babacar, il ne peut pas mourir au 9e étage et descendre toute seule entre 8e et 9e étage. Ce n'est pas possible. En couteau table, il ne peut pas percer un gilet par balle. Comment on peut me dire que je ne peux pas accepter 8 policiers face à un homme seul qui se fait du mal. Ils ont tous les matériels qu'il faut pour le maîtriser. Aucune de eux, ils ne savent pas les aider. Vous voyez où il y a le racisme. Une seule solution, ils ont trouvé le moyen de le tirer des balles, 100 fois, après les balles, les menottes. Et Babacar, pourtant, dès le premier tir qui a touché tous ses organes, Babacar, il a perdu sa vie. Vous voyez? Mais avec ça, ils ont continué de dire c'est une ultime défense. Il n'y a pas l'ultime défense. Moi, la vérité, elle est dans ma main. C'est pour ça que ça fait 7 ans que je me bats. Ça fait 7 ans que je dis non. C'est pas ça, c'est ça. Comment je peux croire que les preuves matérielles qui sont assassinées Babacar, qui sont dans les scellés, ils sont détruits par une erreur. Comment je peux croire ça? Moi, je sais que les scellés, ils ne peuvent pas se détruire comme ça. Dès premières années, ils ont détruit tout. Ils ont dit que c'est une erreur. Ce n'est pas une erreur. Ils ont fait exprès parce qu'ils ont peur la vérité sort. Mais la vérité, je sais moi, parce que c'est moi qui connais l'enquête pendant 7 ans. La vérité, elle est dans ma main. Si je n'ai pas pointé tous les éléments importants là, aujourd'hui, je ne peux pas découvrir que les scellés, ils sont détruits. Des premières années. Si je n'ai pas demandé une expertise médico-légale, je ne peux pas savoir c'est qui, comment Babacar est mort. Je me mets à la place de la maman d'Emmaël et tous les mamans qui luttent contre les violences policières et les assassinats des violences policières. Bien sûr, je ne peux pas parler sans parler les mutilés et les blessés, parce qu'il y en a à Rennes aussi. Il n'y a pas qu'à Paris. À Rennes, il y a beaucoup de morts ici. Il y a beaucoup de familles qui sont en terre. Parce que pourquoi ils ont subi les pressions sur l'État? Ils ont peur de parler. Mais moi, je suis seule ma famille ici en France. Je n'ai pas peur de eux. C'est eux qui ont peur de moi. Et je veux continuer à me battre. Parce que quand ils sont annoncés à nos lieux, je n'ai pas appris ça par mes avocats. Je l'ai appris par les médias 2 jours avant. Est-ce que vous trouvez ça normal qu'ils ont parlé ça comme ça sans aucune ni dossier, ni contacter mes avocats? C'est moi qui ai parlé ça à mes avocats. Moi, je ne lâche pas et je ne pardonne pas. Je veux continuer à me battre pour tout le monde, pour tous les quartiers populaires à Rennes, ailleurs, qui sont subis par les violences policières, qui sont en train de salir nos enfants, qui sont venus dans les terrains de foot, qui gazaient les enfants, qui jouaient le foot. Ce n'est pas normal. Si les enfants courent dans tous les sens dans les quartiers, parce que c'est eux qui sont en train de gazer à eux, c'est eux qui provoquent à eux. Ils ont peur des pétards dans les quartiers, mais ils n'ont pas peur de tirer les balles réelles sur les enfants. Pas de justice, pas de paix.
Pas de justice,
pas de paix.
Pas de justice,
pas de paix.
Pas de justice,
pas de paix.
Pas de paix,
pas de paix.
Pas de justice,
pas de paix.
On n'oublie pas.
Rennes. Nous, des personnes qui nous retrouvons régulièrement sur les mêmes mobilisations, dans des collectifs complètement différents. Et en fait, on s'est reconnus avec, dans cette période où on trouve qu'il y a une montée du fascisme quand même très inquiétante et une fascisation, nous on le dit clairement, du gouvernement. On s'est bien motivé essentiellement parce que les personnes touchées par le, qui sont pas touchées par le racisme, nous on trouve qu'elles portent pas bien nos voix. Leur discours politique généralement ne nous parle pas. Alors on s'est organisé, on a organisé ici là les prises de parole parce qu'on s'est dit que ben, nous la parole on va la prendre parce qu'on ne la donne pas forcément. Après il faut reconnaître que c'est aussi grâce justement à nos frangines comme Awa, comme Tarek de Justice et Vérité pour Babacar qui sont plus expérimentés et ancrés sur la place publique que nous avons la possibilité là, de parler aujourd'hui. Parce que c'est eux en fait qui ont un peu fait le forcing pour qu'on puisse se créer, avoir une place ici. On est l'action révolutionnaire antiraciste de Rennes parce que nous on trouve que ben, l'antiracisme il est forcément révolutionnaire parce qu'il est anticapitaliste, il est antipaternaliste, il est tout ce qu'on veut changer dans cette société. Et tout ce sur quoi en fait se basent les discriminations pour exploiter les gens, voilà. Et donc merci à Awa et Tarek, vraiment merci beaucoup de nous faire une place dans l'espace militant. C'est grâce à vous et franchement merci beaucoup quoi. Bon, car chez nous on comprend assez vite que de toute façon la place on doit la prendre, personne ne veut nous la donner. Et même parfois on est carrément saboté pour pas qu'on nous entende. Celles qui ont la place sont souvent payées par le sang malheureusement pour se faire légitimer. Nous on n'oublie pas qu'on a seulement une place quand il y a des faits divers. Vivre le racisme et être touché par les agressions humiliantes tout au long de sa vie, à soi mais aussi au travers de sa famille, son père, sa mère qu'on voit se faire humilier, ses frangins, ses enfants qu'on assassine. Depuis des générations en génération, ça produit évidemment quelque chose de commun entre nous, quelque chose qui donne du caractère, qui rend fier et pas du tout soumis. Donc tout à fait insoumis, rebelle et sauvage et agressif et tout ce que vous voulez. On est les tares de l'espace public, donc bref. Souvent on ne fait pas la place. Donc on s'est reconnu en fait comme on a ce commun ensemble, comme un collectif qui vit la même chose. Et aujourd'hui on a cet intérêt commun de devoir parler en fait, puisqu'il se passe tout ce qui se passe. Et à partir de nos analyses est complètement ancré dans nos réalités. Comme aujourd'hui nous nous reconnaissons, nous pouvons organiser notre parole. Donc voilà, dans un premier temps, évidemment, la parole revenait de droit aux personnes qui luttent pour les violences policières, pour les gens assassinés ici, dans notre localité. Évidemment, il faut faire une place aux gens qui n'ont jamais la parole, les gens du quartier. Donc je vais te laisser la parole pour les maires isolés. Désolé, on a un coup de passage de parole, mais tout le monde parlera. C'est qu'on n'a pas souvent la parole, donc voilà. Je te laisse te présenter.
Oui, donc moi je vais parler au nom de la collective des maires isolés. Donc le contexte du texte, ce sont les attaques contre la mère de Naël. Donc je vais vous lire le texte. Pointer du doigt les mères isolées dans les quartiers prioritaires, c'est inverser la charge de la culpabilité. Avant de pointer du doigt les mères isolées des quartiers populaires, il faudrait déjà prendre en compte leur existence, leurs difficultés, leur réalité et leurs impacts sur leur vie et celle de leurs enfants. les familles monoparentales dans les quartiers prioritaires de la ville. Nous n'avons pas de chiffres plus récents que celui de 2010. C'est 24% des familles, dont 88% portées par des mères, 46% en temps partiel subi. Et comme partout en France, des difficultés pour se loger, se nourrir correctement, pour travailler dignement, pour faire garder ses enfants, pour prendre soin de sa santé, pour avoir droit à une minute de répit. Ces mères qui se lèvent tôt, qui se couchent tard, qui ont du mal à boucler leur fin de mois. Rappelons qu'en France, 40% des mères isolées et leurs enfants sont sous le seuil de la pauvreté. Ces mères qui n'ont aucun dispositif national généralisé pour les soutenir, ces mères qui n'ont ni le temps, ni l'énergie, ni les moyens de s'organiser pour porter leur voix. Voilà qu'elles seraient coupables de la crise dans les quartiers. Avant de pointer du doigt les mères isolées dans les quartiers prioritaires, il faut rappeler que l'État dénonce sa propre faille, rappelant que le système permet que l'autorité parentale et ses devoirs ne soient assumés qu'en grande majorité par les mères dans les familles monoparentales, les pères conservant uniquement des droits. Toute cette défaillance est organisée en conscience par la justice, par les institutions, enfin, voilà, etc. Avant de pointer du doigt les mères isolées, il faudrait rappeler l'échec de la politique de la ville et les problèmes majeurs qui touchent le quotidien des quartiers prioritaires. Enseignants non remplacés, maisons de quartier et ludothèques qui ferment, non-recours aux droits et difficultés d'accès aux services publics. La liste est longue. Quand on dit que les absents ont toujours tort, triste est de constater que cela ne signifie pas dans notre actualité.
Cette prise de parole pour le collectif Vérité et Justice pour Babacar Gaye, membre du réseau d'entraide Vérité et Justice qui regroupe plusieurs familles victimes des collectifs de personnes mutilées et blessées dans les quartiers et dans les manifestations. Et en solidarité aussi avec les collectifs des personnes sans papier. Le lundi 27 juin, Naël est mort, arraché. Arraché à 17 ans à sa mère, à ses amis, assassiné d'une balle tirée à bout portant en plein cœur, froidement, par un agent en uniforme de la police française. Indignation, colère, écœurement. Savez-vous que chaque semaine, et cela depuis des décennies, au moins une personne meurt tuée par un agent de la police, de la gendarmerie ou de l'administration pénitentiaire. Cette majorité de personnes sont des jeunes hommes noirs et arabes, et parmi eux, des enfants et aussi quelques femmes, voyageurs, issus de milieux populaires et de populations précarisées. On tue dans nos quartiers, on tue dans vos prisons, on tue dans vos centres de détention. Savez-vous que M, un jeune retenu au centre de rétention de Vincennes, est mort tabassé par plus de 10 policiers le 7 juin dernier. Non, vous ne le saviez pas, malgré les nombreux témoignages, il n'y a pas eu de vidéo diffusée sur BFM ni sur CNews, ni dans aucun JT de France Télévisions. Et saviez-vous qu'un jeune homme, El-Hussein Camara, il avait 19 ans, a été assassiné par une balle policière en Charente le 14 juin dernier, dans des circonstances similaires à celles de Naël. La police tue. Il ne s'agit pas d'un événement inédit ou exceptionnel. La police a tué Naël ce mardi 27 juin à Nanterre, comme il a tué Alain Lambin à Saint-Malo en 2019, comme elle a fauché Maëva Coldebeuf à Rennes en 2020, comme elle a assassiné Babacar Gaye en décembre 2015 à Rennes, dans le quartier de Maurepas. Ce sont des agents de la République qui ont assassiné Lamine Diagne, Angelo Garand, Wissam El Yemni, Amine Beltoussi, Ibrahim Abba, Amadou Koumé, Gueye Camara, Adama Traoré, Mohamed Kersi, Idir Médérès, Sacha Aït Hamou, Mourad Touat, lui, avait 14 ans. Hossine Bourras, Claude Jean-Pierre, Aboubakari Tandia, Bouna Traoré, Ziad Bena, Jahida Mokran, Shawai Yu, Zineb Redouane. Une personne, au minimum, chaque année, depuis des décennies, je pourrais vous tenir plusieurs jours sans finir de citer tous les noms. La police tue, la gendarmerie tue, l'administration pénitentiaire tue, l'armée française tue. Et que fait la justice? Elle n'a pas besoin de son bandeau pour fermer les yeux. Sa balance sous le pied et son glaive dans son fourreau. La police tue, mais que fait la justice? Elle acquitte. La police assassine, la justice acquitte. Certainement que l'assassin de Naël ira aux assises, vu que le président de la République semble le lâcher. Mais s'il va aux assises, ce n'est pas le choix de Macron. C'est parce que l'assassinat de Naël a été filmé et que les amis de Naël se sont révoltés et que toutes les personnes qui se sont reconnues en Naël se sont révoltées partout. C'est pour ces raisons que le meurtrier dort aujourd'hui dans une cellule du quartier VIP de la Santé. Il est peut-être dans la cellule de Balkany, ce dernier l'ayant si peu utilisé. Nous ne nous faisons aucune illusion. Ce policier a bénéficié de protections et il en bénéficiera encore. Des protections syndicales, médiatiques, politiques et judiciaires de ce pays. Quand en 2017, un autre président promettait une justice exemplaire au chevet de Théo Louaka, violé par des policiers au pied des tours de son quartier, là encore, les vidéos étaient choquantes et ont provoqué dégoût et rage. Le procès des violeurs aura lieu en janvier 2024 seulement. Et nous pouvons leur prédire une condamnation minimale avec une peine maximale de sursis. Nous savons que la police tue. Nous savons que le tueur de Amin Bentoutsi a pu réintégrer la police après quelques années de sursis. Celui qui avait tiré dans le dos de Amin a réintégré sa fonction. Il est aujourd'hui syndicaliste policier. Il défend l'intérêt de ses collègues, encore aujourd'hui. Nous nous rappelons que les meurtriers de Bouna Traoré et Ziad Bena, encore des enfants, noirs et arabes, ont été définitivement relaxés par la cour d'appel de Rennes, bien des années après, qu'un autre président de la République, alors ministre de l'Intérieur, nous promettait une justice exemplaire lui aussi. Alors, à celles et à ceux qui ouvrent les yeux, écarquillés à la vue de la vidéo insoutenable du meurtre de Naël, il s'agit maintenant d'ouvrir vos oreilles et d'écouter. Écoutez ce que disent depuis des années les familles des victimes des crimes des agents aux ordres d'un État raciste, au service de sa bourgeoisie qui se pense supérieure. Écoutez les personnes qui ont survécu, agressées, mutilées, violées dans nos rues et dans nos manifs. Écoutez les personnes exilées qui, après avoir vécu l'atrocité de la guerre ou de la misère, ont bravé les mers et les déserts, l'enfer de nos frontières et de nos barbelés, et qui sont maintenues sans papier, sans droit, sans soins, sans abri, et qui subissent quotidiennement la violence des agents de l'État et des institutions de ce pays dans un mépris général, malgré des vidéos et les émotions qui ne servent ici à rien. Écoutez et soutenez ces personnes qui luttent à l'avant-garde des crimes d'un État raciste et corrompu. Où serez-vous en décembre prochain lorsque nous commémorerons la mort de Babacar Gaye, comme chaque année, au quartier Moropa? Babacar tué de 5 balles, dont aucune n'est arrivée de face, et que nous soutiendrons encore une fois sa sœur Hawa qui lutte pour la vérité. Que ferez-vous lorsque Hawa s'opposera à la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes qui doit se prononcer sur le non-lieu ordonné il y a un mois par la juge d'instruction? Où serez-vous en mars prochain, quand les familles des victimes des crimes d'État, des personnes rescapées et mutilées dans vos manifestations et des personnes exilées en lutte marcheront ensemble, comme chaque année, partout en France, pour vous mobiliser contre les crimes et les violences de cet État raciste et violent? Ces personnes marchent chaque année pour que l'horreur qui leur est arrivée n'arrive plus, à personne et encore moins à nos enfants. Je vous invite à surveiller dans les réseaux les communications du réseau d'entraide Vérité et Justice. Le mépris d'État produit les violences d'État. Et toujours plus de personnes dans ce pays goûtent à ce mépris et ses conséquences atroces dans leur chair et dans leurs armes et dans leurs âmes quand elles réclament juste le droit de dire la vérité, le droit de manifester, le droit de se protéger. De l'humiliation à la brimade, du main arrachée à un œil explosé, d'un tamponnage de moto à un tir en plein cœur. Et on n'oublie pas l'enfer et l'abandon dans les mitards de tous nos centres pénitentiaires. C'est qui les criminels? Ce sont les délinquants. Qui sont les délinquants, les voyous et les violeurs? Vous les trouverez encravatés avec leurs bonnes manières sur les plateaux de télé ou dans les conférences des grandes rédactions, assis autour des tables des conseils d'administration de nos grandes entreprises et celles du conseil des ministres. Ils font les lois, des lois racistes et meurtrières, des lois à leur profit et des lois qui garantissent leur position, leur impunité et leur surplomb sur nous toutes et tous. La police assassine, la justice acquitte, elle défend la République raciste au service des bourgeois. Pas de justice, pas de paix.
Pas de justice, pas de paix. Pas de justice, pas de paix. Pas de justice, pas de paix. Pas de justice, pas de paix. Pas de justice, pas de paix. Pas de justice, pas de paix. Pas de justice, pas de paix. Pas de justice, pas de paix.
La police tue, la justice acquitte. La police tue et la justice acquitte. La police tue et la justice acquitte. La police tue et la justice acquitte.
Voilà, pour poursuivre les prises de parole ancrées dans les réalités des quartiers et par rapport aux personnes racisées qui ont aujourd'hui besoin de parler leur intérêt, de les poser ici. On va donner la parole à la coordination du quartier sud. Myriam.
Ici l'association Zup-Sud. Je représente aussi les habitants de Zup-Sud. Nous, associations et militants du quartier sud-est de Rennes, nous souhaitons ajouter notre parole à celle qui circule déjà depuis plusieurs jours à travers de nombreux communiqués depuis notre positionnement d'acteurs et d'actrices de proximité, travaillant et habitant ou ayant grandi dans le quartier du Blône, qu'on appelle Zup-Sud, espace qui nous lie en un même quartier. Madame Merzouk Mounia, nous nous rassemblons aujourd'hui pour vous adresser nos pensées les plus sincères, pour vous apporter tout notre soutien dans ce que vous traversez de pire, la perte de Naël. Nous nous rassemblons aujourd'hui pour vous adresser nos plus sincères condoléances. Une mère souffre, un père souffre, une grand-mère, un grand-père, des frères et des sœurs souffrent. Toute une famille, toute une partie de la population souffre à la mort de Naël Merzouk. La mort de Naël nous plonge tous aujourd'hui dans un deuil traumatique. Dès la première rencontre entre militants et militantes du quartier du sud-est de Rennes, pour produire ce communiqué, un appel d'une seule et même voix s'est imposé immédiatement. Le traitement inégalitaire des citoyens de notre pays doit cesser. La discrimination et les injustices qui touchent les jeunes des quartiers populaires sont intensives, massives, violentes, brutales et donc injustifiées, disproportionnées et donc assassines. Ces interventions déshumanisantes sont devenues quotidiennes et anecdotiques dans le quartier du Blône, et pas seulement. Hélas, notre pays devient un endroit du monde où on stigmatise les codes culturels, un endroit où le racisé est soupçonnable, méprisable et donc condamnable. Nous, associations de terrain, c'est ce que nous constatons et c'est ce que nous combattons avec nos moyens, par notre écoute, notre soutien et nos actions. La France est-elle devenue meurtrière d'enfants de 17 ans? Pourtant, la France a aboli la peine de mort en 1981. Serait-elle réhabilitée dans les quartiers populaires? À cela, j'ajoute les réactions et déclarations des membres du gouvernement, qui sont aussi révoltantes que les appels d'une partie de la population à soutenir la criminalité policière. Que devons-nous comprendre par la violence que subit aujourd'hui la mère de Naël? Comment les réseaux sociaux seraient la cause de ces violences? Comment les mères n'éduqueraient pas bien leurs enfants? Comment ce seraient des pères virils et autoritaires issus des pays non civilisés? Comment ce seraient les mères isolées qui élèvent seules un ou plusieurs enfants, certains porteurs de handicap? Comment ce serait un retour à une identité barbare, ethnique? Nous déplorons ce mépris envers les familles à qui l'on reproche de ne pas bien éduquer leurs enfants, mais à qui on retire le pouvoir d'éduquer avec des discours qui délégitiment leur code culturel en la matière, de manière condescendante, voire de manière répressive. Et que dire de la densité urbaine de plus en plus étouffante dans notre quartier? Que dire des projets de rénovation par la ville qui ne se cachent pas de ne viser que l'attrait des classes moyennes et qui oublient les logements sociaux? Que dire du manque de maisons des jeunes, des commerces et des petites associations de proximité? Vous vous demandez pourquoi la jeunesse se révolte? Ce sont évidemment ces injustices, ces violences intériorisées et accumulées de nos jeunes qui ont explosé pendant plusieurs nuits dans nos quartiers après la mort d'un garçon de 17 ans, auxquels ils se sont identifiés. Et pendant ce temps-là, la cagnotte de solidarité pour son assassin atteignait plus d'un million d'euros. Un policier qui tue, serait-ce un policier qui s'enrichit? Qu'en est-il de la rançon de la colère des jeunes? De la prison ferme? Des comparutions immédiates pour des enfants qui sont sortis exprimer ce que les dirigeants ne veulent pas entendre? Et la mort? On n'est pas sérieux quand on a 17 ans. Une jeunesse voit sa vie détruite à cause d'une justice répressive, voit sa vie détruite par la case prison pour une révolte qu'elle n'a pas préméditée et qui n'a tué personne. Que les délits soient sanctionnés, c'est la règle, mais pas par des mesures d'exception. Quand l'État devrait faire respecter le droit, nous observons un glissement vers un état de non-droit et qui s'ajoute à tous les traitements inégalitaires que nous venons d'évoquer. Écoutons la parole des mères du Blône sur ce qu'elles vivent au quotidien. Voilà ce qu'elles disent. Nous voulons que les institutions éducatives, les professeurs et les conseillers d'orientation offrent des perspectives à nos enfants, car les choix d'orientation vers des voies de garage persistent encore aujourd'hui, et ce depuis très longtemps. Cela doit cesser. La France ne doit pas faire de notre quartier une réserve de main-d'œuvre bon marché pour la classe dominante. Nous pensons à nos jeunes qui se font embarquer au commissariat pour outrage à agents sur le simple ressenti de policiers paranoïaques. Les gens qui ne sont pas du quartier doivent nous croire quand nous disons que deux amis qui se parlent en arabe dans la rue ou qui sont en bas des tours se mettent en danger. Cela doit cesser. Nous dénonçons aussi les autres formes de violence, jet de lacrymogène sur l'ensemble des habitants. Dans les galeries commerciales, alors que des mères font leurs courses, tirs de flashball dirigés vers les fenêtres des immeubles, etc. Cela doit cesser. Nos enfants sont harcelés, sont maltraités par la police et subissent des arrestations arbitraires. Cela doit cesser. Nos enfants sont humiliés, on les déshumanise, on leur ôte toute dignité. Cela doit cesser. On n'est pas sérieux quand on a 17 ans. Stop à la condescendance, à l'humiliation. Stop à la discrimination, stop au mépris, stop à la violence et au meurtre d'État. Soutien à la mère de Naël Marzouk et toutes les mères.
Merci infiniment pour cette parole très très importante. Je vais prendre la parole pour l'action révolutionnaire antiraciste de Rennes. Donc un collectif qui vient de se monter. Depuis l'assassinat de Naël par la police, plusieurs discours de gauche apparaissent et oublient très souvent les points nécessaires à exprimer et à diffuser. Nous, collectif de personnes racisées ou proles de banlieue, sauvages notoires des espaces bourgeois, prenons la parole pour apporter une autre vision du contexte actuel. Naël, un jeune racisé de Nanterre, a été assassiné par la police à 17 ans. Ce crime est un crime raciste, porté par la main armée d'un État colonial.
Ce n'est pas un crime aléatoire, une énième bavure policière. C'est un outil politique qui maintient l'exploitation et la soumission raciale par la violence. C'est un acte justifié par le système français empreint de colonialisme toujours opérant comme une réponse à un ensauvagement fantasmé des banlieues. C'est un assassinat parmi beaucoup d'autres porté par une police de plus en plus ouvertement acquise à l'extrême droite, protégée par des lois de plus en plus laxistes vis-à-vis d'elle. C'est un acte politique qui permet au gouvernement une occasion de sortir d'une crise sociale et d'offrir une place publique légitimée à l'extrême droite. Les révoltes urbaines que cet assassinat a entraînées sont-elles aussi politiques ? Le discours politique et médiatique, les résumant comme de simples actes de haine dépolitisés sans objectif, avec des cibles aléatoires, est raciste et totalement faux. Il s'appuie sur les mêmes argumentations que celles de l'extrême droite. Dire que les habitantes et habitants de banlieue sont des sauvages, des gens violents par nature ou par culture, qu'ils ne réfléchissent pas plus loin que leur haine. Les attaques des institutions républicaines des quartiers ont du sens, y compris pour celles qui les produisent. Les mairies sont des espaces où sont réfléchies des politiques d'enfermement des prolos, des racisés dans les quartiers. Les écoles sont des espaces de ségrégation sociale qui maintiennent l'impossibilité de sortir de la merde si t'es né au mauvais endroit. Ces institutions représentent l'État et toute l'oppression qu'il maintient pour que les précaires et racisés continuent à se briser la santé pour leur confort colonial. Alors, les attaques contre ces institutions sont des actes clairs de révolte et sont réprimées comme des révoltes au quotidien par la police. À ce propos, on assume complètement notre faute d'orthographe collective, ce qui n'était pas fait exprès. Et comme on... Voilà, ça prouve bien où on se situe sur l'échelle de la scolaire.
Nique l'Académie française !
Nique l'Académie française. Les attaques des magasins, vues par les médias et les discours dominants actuels comme étant de simples pillages, ne sont en réalité qu'un juste retour de bâton. Les magasins ciblés fondent leur stratégie commerciale sur le profil banlieusard, les casquettes, survêtes et tout. Leur attaque est le retour de cette tentative d'absorption de la culture banlieue. Culture où n'est valorisé que le style sans payer le tribut des stigmates. Discrimination que les gens subissent derrière ce style. Les attaques au vol de ces commerces sont une taxe sur cette valeur ajoutée au style banlieusard qui rétribue les commerçantes. C'est un juste retour, car cette valeur ajoutée qui bénéficie au commerce ne bénéficie jamais aux gens qui produisent le style. Ce bénéfice pourrait se transformer en reconnaissance sociale valorisante des banlieues et pourrait produire du respect envers les gens qui y vivent. Ben, c'est pas le cas. Nous pourrions avoir un embellissement et un confort avec des infrastructures pensées par et pour les habitants des banlieues. C'est pas le cas. Les gens pourraient en bénéficier par les emplois créés, générés par ces infrastructures. C'est vraiment pas le cas. Le Triangle, il n'y a personne du quartier qui bosse là-bas. Le conservatoire à Aublonne, il n'y a personne du quartier qui bosse là-bas. Donc voilà, il faut s'interroger quand même. Les activités pourraient être à la hauteur de leurs revenus et leurs besoins culturels et cultuels. Nous, il y a un truc qui nous scandalise clairement, mais c'est la loi séparatisme. Qui met le soupçon sur dès qu'il y a un musulman quelque part dans une assos, c'est vraiment scandaleux, c'est insultant pour tout le monde. Donc voilà, on aimerait qu'il y ait un respect des catholiques comme des musulmans, des juifs comme des chrétiens, hein, ce serait important. Mais rien n'est fait dans ce sens. Donc pour les activités pourraient être à la hauteur de leurs revenus, de leurs besoins culturels, parce que je rappelle qu'au conservatoire, pour y aller, c'est quand même pas... Faire les triangles, en fait, toutes les... quand on n'a pas un salaire et demi, voilà, c'est pas facile quoi, de faire les activités culturelles proposées par la bourgeoisie.
mais rien n'est fait dans ce sens donc. Tout est fait pour que les précaires et racisés respectent l'injonction « consomme et ferme ta gueule », alors l'attaque et le pillage des magasins est plus que légitime. Les révoltes depuis l'assassinat de Nahel sont politiques et légitimes. Ce qui n'est pas légitime, et encore moins, ok politiquement, c'est les syndicats qui proposent des rassemblements sans s'organiser avec les collectifs antiracistes de leur secteur. C'est les partis politiques qui appellent au calme, qui soutiennent la police, qui parlent de chaos dans les banlieues, en surfant sur les discours d'extrême droite pour gratter des électeurs. C'est des groupes institutionnels ou non qui s'autoproclament antiracistes mais qui ne dénoncent pas les assassinats d'État et encore moins la répression qui est mise en place en ce moment. C'est l'État macroniste qui profite de cette situation pour se replacer comme grand défenseur de la République après qu'il l'ait autant attaqué pendant les réformes des retraites. C'est le retour à l'ordre qui s'impose par la violence, mais qui est validé par un discours moraliste, valorisé par les républicains bourgeois de la droite, et malheureusement de ce qui se certains qui se programment de la gauche. C'est l'utilisation de boucs émissaires, sauvages et ingrats de la République, qui n'auront pas l'espace de s'exprimer pour réunir tous les racistes de France autour de l'ordre social bourgeois. C'est Dupond-Moretti qui impose un traitement bâclé des dossiers pour faire des exemples, qui attaque les familles révoltées, stigmatisées, émeutillées pour les discours dominants, mineurs qui passent tous les dossiers en comparution immédiate sans défense possible. C'est plus de 3000 arrestations dès le quatrième jour et déjà des peines de prison fermes. C'est les blindés, l'armée, le RAID, la BAC, la BRAVEM envoyés pour se déchaîner sur les révoltés des quartiers. C'est les fachos qui attaquent les manifestations à Angers, Lyon, et prévoient des attentats dans le silence complice de trop de médias. Ce sont les mêmes fachos qui créent les équipes anti-casseurs, tabassent, menottent et livrent au keuf les personnes en lutte, en étant remerciés pour ça. Étonnante complicité quand on voit que le discours du syndicat de Police Alliance et des groupes d'extrême droite porte sur le même fantasme de guerre civile contre les sauvages, entendre ça, noir et arabe, bien sûr. En France, quand tu nais dans un quartier populaire, faut que tu acceptes que ta vie se joue au bon vouloir des keufs qui te passent. Si tu te rebelles, tu auras toujours des fachos et les keufs, merci. Pour t'agresser, t'assassiner, tu auras toujours des libéraux pour s'allier aux fachos, leur donner un cadre de loi permissive et leur faciliter le travail, financer la police coloniale, dissoudre tout groupe politique trop antiraciste. T'auras toujours la gauche molle qui soutiendra les keufs, l'institution, la République, même si en face, c'est des vies qui sont en jeu. En clair, en France, quand tu vis en banlieue, t'es seul dans ta lutte et t'auras jamais personne derrière toi. L'insurrection, la révolte, est une solution politique. La révolte, dans le contexte politique actuel, est de toute façon la seule solution, puisque tout le reste est dissous, interdit, insulté, dénigré, stigmatisé, ciblé par des attaques de tous bords. En soutien aux révoltes, aux solidarités qui en ressortent, aux actions et collectifs antiracistes qui luttent pour la justice, pour leurs proches et toutes celles et ceux assassinés et maltraités par les institutions d'État, justice pour Nahel.
Justice pour Nahel !
Justice pour Nahel !
Justice pour Nahel !
Justice pour Nahel !
Abat l'État policier, abat l'État policier.
on m'a demandé, bien sûr, il y aura la prise de parole d'organisations syndicales et politiques. Dans la première partie, on laisse la place vraiment au quartier, aux luttes antiracistes.
Bonjour. Ami de l'association France Palestine Solidarité. Donc c'est une association qui existe sur Rennes depuis 35 ans. Nous luttons contre le déni de justice qui est fait aux Palestiniens en faisant connaître l'histoire du peuple palestinien. Et nous luttons pour la justice là-bas comme ici. Donc en tant que citoyen aussi, donc quelques deux trois points à partager avec vous. C'est que dernièrement, en fait, quand il y a des émeutes, bon, en fait, on entend un glissement de langage et du vocabulaire. Vous entendez parler des banlieues, des sauvageons, l'ensauvagement, les décivilisés. Donc je rappelle toujours que les décivilisés, en fait, c'est un terme qui a été mis en circulation par Renaud Camus, celui qui a chanté il y a une dizaine d'années aussi le grand remplacement. Donc quand vous entendez un président parler donc de décivilisés, pensez que derrière aussi, lui aussi, peut-être il voit le grand remplacement un peu partout. Et en fait, cette histoire, ça nous renvoie il y a deux siècles. On était en plein siècle de lumière, entre guillemets. Et il fallait agrandir les empires, il fallait aller occuper l'Asie et l'Afrique. Et pour ne pas être en contradiction avec les droits de l'homme ici, on a inventé aussi un vocabulaire. On a dit que les Africains étaient arriérés, étaient fourbes, ne voulaient pas travailler, sanguinaires, tout ce qu'on voulait, juste pour leur permettre en fait d'aller voler les terres là-bas. On a dit que les Chinois, les Asiatiques n'étaient pas catholiques, on a dit que les Noirs n'avaient pas d'âme, et tout était possible en fait pour voler. Et en fait, ce glissement de langage qu'on utilise encore aujourd'hui, contre donc les banlieues, c'est ça qui va permettre en fait de banaliser entre guillemets le mal et le racisme et de banaliser des gestes comme celui donc de il y a 15 jours d'assassiner quelqu'un et de trouver encore un public qui va mettre 1,5 million dans une cagnotte de la honte sans chercher en fait à comprendre. Voilà en fait sur ce discours là. Je suis un petit peu ému parce que j'ai improvisé des choses pour ne pas donc pouvoir participer. En fait, sur la Palestine, par exemple, donc les Britanniques à l'époque, ils disaient en fait que tuer un arabe là-bas, c'est comme écraser un chien en Grande-Bretagne, à la différence que là-bas, on ne fait pas de rapport. Et là-bas, encore, les Israéliens continuent en disant que les Arabes, ce ne sont pas des humains. En fait, ils disent que ce ne sont pas des humains, ce ne sont que des Arabes. Et c'est pour cela aussi qu'il s'est flagrant, c'est qu'en 2005 et pour en 2023, pour les révoltes dans les banlieues, Darmanin, comme Sarkozy à l'époque, il va avoir recours donc à l'expertise des armées et de la police israélienne pour l'aider à mater un petit peu la rébellion dans les quartiers. Et comme quoi, en fait, on voit bien que les choses sont liées. J'ai parlé d'il y a deux siècles, donc pour les jeunes aussi. À la fin du siècle dernier, il y a eu une affaire similaire à celle de Maël. Anthony Delon, fils de l'acteur Alain Delon, que peut-être vous ne connaissez pas, et vous avez parfois raison, parce que c'est un acteur qui était très bien au début, qui a mal tourné après. Et donc en fait, on a arrêté Anthony Delon, à 19 ans, dans une voiture volée, avec des armes dans la voiture et des munitions, et avec un copain donc, à côté, et donc sans permis aussi. Toujours est-il, on l'a condamné donc, à 3 semaines de prison, et puis le reste, 6 mois je crois, de prison, avec contrôle judiciaire. Et on nous a expliqué à l'époque que le jeune homme a été perturbé par la célébrité de son père. Et quand on lui a posé la question d'où vient cette passion pour les armes, il a dit c'est mon père qui m'a passé cette passion pour les armes. Aujourd'hui, si on arrête votre enfant dans une voiture volée ou bien sans permis, on va vous dire vous avez mal éduqué votre enfant, surtout si vous habitez les banlieues. Parce qu'on ne se permettrait pas de dire à Alain Delon, parce que vous voyez. Donc... Et puis, qu'est-ce qu'on a entendu? Donc Alain Delon, Anthony Delon, pendant à l'époque, il n'a pas reçu une balle dans le thorax, et heureusement, parce que la mort d'un seul homme est une mort de trop. Mais la mort d'un seul homme ici ou ailleurs, nous, on ne fait pas le distinguo entre les morts ici et les morts quelque part. Donc, tous les morts se valent. La vie n'a pas de prix. Et donc, pour vous dire, en fait, qu'à l'époque, on réfléchissait peut-être avant de tirer, mais aussi, donc, le délit de faciès, c'est que parfois, on peut se permettre de faire des choses qu'on ne fait pas avec certaines personnes. Pour passer au troisième point, c'est que vous entendez aussi pas mal de chiffres. Donc, moi, j'ai une formation de scientifique et j'ai gardé, donc, toujours... je sais faire le calcul mental, je fais toujours des opérations mathématiques tout de suite et je sais aussi, j'ai un peu de sens critique. Quand vous entendez parler des gens en train de dire comme ça qu'on dépense un pognon de dingue, je vous donne juste quelques exemples sur les quartiers pauvres, donc défavorisés ou les quartiers pauvres dans la politique de la ville, c'est 5 millions de personnes. Sur certains programmes, c'est 100 millions comme budget.
100 millions, quand vous divisez par 5, ça fait 20 euros par personne. C'est le prix de 2 paquets de cigarettes. Et on s'étonne que ça ne marche pas. Sur d'autres pas, donc sur d'autres programmes, au maximum, donc l'Institut Montaigne, ce n'est pas un institut de radicalistes ou bien de communautistes, je ne sais pas quoi, c'est libéral, et qui dit en fait qu'on dépense à peu près 6 milliards, 6 milliards en tout pour les quartiers défavorisés. Mais quand vous regardez en fait la population qui habite là-bas, c'est de l'argent qui est dépensé, saupoudré, et dépensé sans évaluation, parce que dans les quartiers, depuis 40 ans, on a connu une quinzaine de plans pour les banlieues. Ça veut dire presque un plan tous les 2 ans. Et à chaque fois, il n'y a aucune évaluation de l'efficacité de ce qu'on fait comme dépense. Et donc ça vous donne un exemple. Et quand vous entendez parler des quartiers perdus de la République, il faut rectifier, ce sont les quartiers oubliés de la République. Qu'on ne vient pas nous inverser le rôle. Et donc, pour vous dire pour le troisième point, c'est que pour avancer un petit peu, donc il faut quand même investir les lieux. Et la chose à laquelle l'homme politique est très sensible, c'est le rapport de force. Il y a un rapport de force qui est en notre défaveur aujourd'hui, ça se construit. Et pour cela, il faut investir les lieux, il faut aller dans les associations, certaines associations comme celle à laquelle je participe, au Blon ou à Abidjan, font un travail très efficace. Mais malheureusement, on est atteint par aussi le vieillissement et par les yeux, et on manque de jeunes. Donc si vous vraiment vous rêvez de changer les choses, allez-y dans les associations autour de vous et faites pour que tout soit fait pour nous, avec nous, et non pas simplement quelque chose qui tombe du haut en bas. Parce qu'en fait, si on voulait que les choses tombent du haut en bas, on laisse la nature faire, la gravité fait mieux les choses que nous. Merci à vous, et les Palestiniens, ils peuvent aussi chanter « Pas de justice, pas de paix ». Merci à vous.
Je crois que je suis déjà venu tout à l'heure, mais c'est pas grave. Alors, Solidaire 35, c'est moi qui l'ai sûrement.
Donc, ça va toujours aussi froid? Bonjour à toutes. Nous sommes ici aujourd'hui parce que, encore une fois, un jeune arabe des quartiers populaires de 17 ans est mort. Il s'appelait Nahel. Et bien sûr, il n'est pas le seul à être décédé suite à un contrôle policier. La liste des prénoms s'allonge. On peut songer à Al-Hussein, M, Zineb, Babacar, bien sûr, Angelo, Ziadebouna. Face à un système qui s'avère être... Face à des pratiques qui se répètent, comme on dit, une bavure qui se répète, c'est un système. Aujourd'hui, Solidaire 35 souhaite accompagner les familles et les proches des victimes dans leur deuil, en apportant notre soutien à celles-ci suite à ce drame insupportable. Nous souhaitons également engager une forme de résistance commune face à la répression judiciaire, policière et administrative ultra-violente, disproportionnée, portée sur les corps des jeunes inculpés des quartiers populaires. Là, vous pouvez applaudir, si vous voulez. C'est un jour de quand on s'élève, on peut applaudir. Les réactions des colères qui se sont manifestées par la mort de Nahel, encore une fois, puisque par la police, je le rappelle, encore une fois, fait éclater au grand jour la ségrégation sociale et raciale que connaissent les quartiers populaires en France. Ségrégation sociale et raciale qui peut s'étendre aux territoires colonisés. Elles mettent en évidence l'échec des politiques publiques et la casse des services publics, y compris dans l'éducation. Cet échec incombe en premier lieu au gouvernement. On le sait depuis des années, des années, des années. Déjà, il y avait des émeutes dans les années 80 dans la banlieue lyonnaise. Et depuis, la situation ne fait que se dégrader dans les quartiers populaires. Les médias, eux aussi, ont leur part. Les chaînes d'information continuent. Portent une lourde responsabilité parce qu'ils ne cessent de dégrainer, de se focaliser sur les dégâts matériels. Les dégâts matériels. On se concentre sur des casseurs de vitrines et on oublie les casseurs de vie. Et que dire de la diabolisation des révoltes? en parlant d'émeutes, en évitant soigneusement les violences policières. Parfois, à la limite, on en parle pour les journalistes, et encore. Et ces médias qui, finalement, infusent une idéologie raciste et masquent la réalité, nos réalités. Et que dire enfin de ces responsables politiques qui manipulent cette mort tragique et qui refusent, qui n'ont même pas la décence de... qui refusent le statut de victime à Naël. Et enfin, que dire des appels au calme? Mais quel calme? Deuxième page. Face à tant de manquements, solidaires, suite à la mort de Naël, les révoltes qui ont suivi, veut obliger l'éducation nationale à prendre ses responsabilités. Les rectorats doivent intervenir pour protéger les élèves poursuivis judiciairement. Ils doivent échanger avec les représentantes des personnels pour déterminer des moyens dont l'éducation prioritaire a clairement, cruellement besoin, urgemment besoin. Solidaire 35 ne croit jamais et ne croira jamais en la répression policière et judiciaire. Les consignes de fermeté transmises par Dupond-Moretti sont inacceptables. Notre syndicat revendique la libération immédiate de toutes les personnes arrêtées lors des révoltes des quartiers populaires et l'abandon de toute poursuite engagée contre eux. La violence policière et les pratiques racistes de l'État banalisent la déshumanisation des migrants et des personnes subissant le racisme. Je suis allé un peu vite, désolé. Solidaire dénonce donc les comportements racistes, l'impunité policière, l'utilisation d'armes et l'ensemble des techniques dites non létales qui finissent finalement par tuer des gens. Nous n'en pouvons plus. Et nous ne pouvons... On ne peut pas dire qu'on ne savait pas. L'ONU nous avait prévenu régulièrement. Amnesty International nous a prévenu régulièrement. La Ligue des droits de l'homme qui est ici parmi nous, nous a prévenu. Plusieurs personnes qui ont été au poste de défenseurs des droits, au moins deux, nous ont prévenus. Et ça, c'est seulement institutionnel. Depuis des années, les militants, les habitants, les personnes racisées nous préviennent. Donc, à tout cela, nous ajoutons le fait que le gouvernement doit prendre ses responsabilités et donner des réponses immédiates, à savoir l'abrogation de la loi 2017 sur l'assouplissement des règles en matière d'usage d'armes à feu par les forces de l'ordre.
Abrogation.
Une réforme profonde de la police et de ses techniques d'intervention et d'armement.
Abolition de la police. Ouais.
C'est une autre revendication à discuter. Le remplacement de l'IGPN par un organisme indépendant de la hiérarchie policière et du pouvoir politique. Et la création d'un service dédié aux discriminations touchant la jeunesse au service de l'autorité administrative présidée par le défenseur ou la défenseureuse, défenseur avec un E, des droits. Et le renforcement des moyens de lutte contre le racisme, y compris dans la police. J'ai plus de voix, donc je vais finir. Solidaire se tient, quoi qu'il arrive. Ah non, faut que je le dise, excusez-moi. Nous voulons l'abrogation des lois racistes et discriminatoires, comme la loi séparatisme, la loi sécurité globale et asile immigration. Nous voulons le respect de l'esprit et de la lettre de la loi de 1905 sur la laïcité. Nous voulons des moyens pour la mixité sociale et en finir avec l'enseignement privé. Il est là le vrai séparatisme.
Oui.
Et nous voulons la suppression de la réforme du bac et du parcours sup. Je suis désolé, j'y arrive plus trop.
Allez, c'est vachement bien.
C'est vachement bien, c'est cool. Nous voulons la titularisation des personnels précaires et l'accès aux concours sans condition de nationalité. La régularisation de l'ensemble des sans-papiers. Et enfin, la fin de l'instrumentalisation de la laïcité pour des fins racistes et islamophobes, surtout. Solidaire se tient du coup d'abord et avant tout en solidarité de Naël, des proches de Naël, des proches de toutes les personnes qui sont victimes des violences policières, mais aussi des habitants des quartiers populaires, des élèves et des personnels qui subissent ces violences, parce que nous sommes ensemble et nous devons être ensemble et faire front contre le racisme et contre l'impunité policière. Merci à vous. Pas de justice et pas de justice.
Pas de justice.
qu'il y a eu dernièrement, si vous n'avez pas entendu parler, les inculpés du 8 décembre, dont une personne qui vit à Rennes qui a été prise sous cette procédure-là. Il y a son frère Camille qui va en... Enfin, non, son frère, ça s'appelle pas Camille. Il va en parler.
Merci beaucoup. Moi, j'ai pas préparé de texte, donc je vais essayer de juste rappeler les faits. Donc en fait, le 8 décembre 2020, trois jours après avoir aidé à l'hommage pour Babacar, ma sœur, elle a été emmenée par la police antiterroriste. Elle a été emmenée en garde à vue, puis incarcérée, et aujourd'hui en attente de son procès sous contrôle judiciaire. Ils sont sept à être inculpés pour association de malfaiteurs terroristes. Le mensonge du ministère public, donc du parquet national antiterroriste, mais aussi de la DGSI et de Darmanin, qui est le chef de la DGSI. Leur mensonge, c'est de dire que ces personnes-là étaient des activistes d'ultra-gauche qui est en train de préparer des actions violentes pour s'en prendre à des policiers ou des militaires. Ce qui est absolument faux, ce qui a été démenti, mais malheureusement à demi-mot dans l'instruction. Du coup, je vais revenir un peu sur le moment de son arrestation, parce que les policiers qu'on a pu voir aller interpeller les jeunes qui se révoltaient dans les quartiers partout en France ces dernières semaines, notamment le RAID, c'est eux aussi qui sont venus attraper ma sœur et ses co-inculpés. Donc à 6h du matin, ils sont arrivés chez elle en défonçant une porte ouverte qui n'était pas verrouillée. Ils étaient équipés de fusils d'assaut, ils étaient cagoulés, ils avaient des boucliers par balles. Ils ont menotté ces trois colocs et ils ont fracassé la porte de sa chambre, ils ont visé son torse, le doigt sur la gâchette, les fusils d'assaut chargés. Ils ont retourné évidemment toute sa chambre pendant 3 heures, ils ont pris en photo des affiches sur le Kurdistan. On parlait d'internationalisme tout à l'heure. Il y a aussi un peuple qui subit la répression, et la répression antiterroriste française, c'est le peuple kurde. Et donc ils ont pris en photo ces affiches sur le Kurdistan, des brochures notamment de Zehra Dogan, qui est une exilée politique, actuellement exilée en France. C'est une artiste, une journaliste qui a été incarcérée et torturée en Turquie. Et donc, suite à ça, ils lui ont mis un sac sur la tête et ils l'ont monté de force dans un fourgon banalisé. Ensuite, ils l'ont emmené par le train, donc avec une camisole, un masque de ski, une casquette, une capuche. Ils l'ont monté dans le train, menotté dans le dos, etc., juste pour l'emmener aux locaux de Levallois-Perret, les locaux de la DGSI et de la SDAT. C'est les mêmes locaux où les personnes arrêtées en lien avec la Farge et les Sauveurs de la Terre, c'est les mêmes locaux où ces personnes ont subi les gardes à vue. Pendant sa garde à vue, on l'a menacé pour prendre son ADN, on l'a menacé d'attouchement sexuel. Ensuite, on l'a placé donc, pendant 4 jours, comme toutes les personnes là-bas, et c'est leur méthode là-bas, c'est-à-dire que c'est des cellules insonorisées au 4e sous-sol. Il n'y a pas de fenêtre, on ne sait pas quelle heure il est, on a des néons en pleine figure, on a mal au crâne, tout est fait pour nous déstabiliser. Donc ils lui ont fait des interrogatoires de 2 fois 6 heures par jour, des interrogatoires très intenses avec des centaines et des centaines de questions. Suite à ça, elle a été incarcérée donc sous statut terroriste. Et en fait, du coup, suite aux violences policières, là maintenant c'est la pénitentiaire qui prend le relais. Et en fait c'est toujours comme ça, il y a la police, il y a la justice et il y a la prison. Et en prison, elle a subi des fouilles à nu qui sont systématisées, même si c'est illégal, c'est systématisé pour les personnes suspectées de faits en lien avec du terrorisme. Et il faut savoir que les fouilles à nu, elles sont pratiquées massivement sur des hommes aussi, et des hommes noirs et arabes, et beaucoup de jeunes de moins de 25 ans dans les prisons françaises. Et je pourrais continuer, raconter les violences pénitentiaires qui ont été subies par un autre inculpé qui se surnomme Libre Flo, qui lui a été placé à l'isolement carcéral pendant un an et demi. Il a dû faire une grève de la faim d'un mois pour pouvoir sortir. Voilà, ça a été super dur. Mais tout ça pour dire qu'en fait, l'antiterrorisme, ça se nourrit du racisme, ça se nourrit de l'islamophobie. Ces dernières années, il y a eu des jurisprudences sur l'association de malfaiteurs terroristes qui sont scandaleuses. On peut juger des gens pour association de malfaiteurs terroristes, même s'ils n'ont pas de projet, même s'ils ne se connaissent pas. Et c'est le cas des inculpés du 8 décembre. Ils n'ont aucun projet. Il y en a certains qui ne se connaissaient pas, certains qui se sont vus une fois dans leur vie. Et au moment des arrestations, chacun menait sa vie de son côté, quoi. Et ça s'est fait sur le dos de musulmans depuis au moins 2015, depuis l'affaire Mera, etc. Donc en fait, la peur liée à l'islam, le racisme qui est diffusé dans les médias, il sert à ce que les masses soient absolument pas critiques. Et la gauche a aussi mis de côté la critique sur ces questions-là depuis des années. Et en fait, aujourd'hui, nous, on en fait les frais, évidemment. Et en fait, ça va s'étendre, ça va se diffuser, parce que toutes les lois d'exception et toutes les mesures d'exception, elles se sont toujours banalisées. Et quand on voit aujourd'hui qu'il y a le RAID qui est envoyé pour arrêter des gamins de 15 à 18 ans dans la rue, franchement c'est choquant, et ça vient rappeler qu'en fait l'antiterrorisme, c'est pas du tout une police spéciale, une police d'exception, mais c'est devenu une police de maintien de l'ordre, et d'un maintien de l'ordre d'un ordre raciste, capitaliste, qui est en train de détruire la nature, qui est en train de pratiquer le nettoyage ethnique et le nettoyage politique aussi, parce que l'antiterrorisme, c'est pareil, ses origines, c'est la doctrine de guerre révolutionnaire qui a été théorisée depuis la guerre d'Indochine et ensuite en Algérie. Et en fait, c'est une doctrine qui s'est répandue et qui a colonisé vraiment tout le maintien de l'ordre français. Je vous conseille de lire Mathieu Rigouste à ce sujet-là. Et en fait, on est tous des ennemis, et l'État, il est en guerre contre tout le monde aujourd'hui. Et voilà, c'est des mesures de guerre qui sont appliquées à la population civile, qui ne vont pas toucher que les autres, en fait. Là, ça commence à toucher les écologistes. Et en fait, ça va pas s'arrêter, ça va s'étendre. Et notamment si on laisse faire, des affaires comme celle du 8 décembre. Donc voilà, dernier petit mot, du coup le procès des inculpés du 8 décembre, ça va être du 3 octobre au 27 octobre, et ça va être assez violent, parce que après les violences policières, on sait qu'il y a toujours aussi les violences judiciaires, et les violences pénitentiaires, et aussi les violences médiatiques qui les accompagnent. Et du coup ça va être le procès de l'ultra-gauche, parce que c'est ça leur marionnette. Actuellement, c'est ça la menace qu'ils sont en train de créer, qu'ils veulent créer dans l'imaginaire. Et s'ils veulent créer cet imaginaire dans la menace, c'est évidemment pour diviser le mouvement social, mais aussi pour justifier les violences qui vont venir. Et on l'observe partout dans le monde, les mesures antiterroristes, elles visent des antifascistes, des anarchistes, des communistes, des socialistes, etc. C'est pas une exception, la Russie, en fait. Genre ça se passe en Biélorussie, ça se passe en Turquie, ça se passe au Chili, ça se passe partout en fait, et ça se passe en France. Voilà.
Ce procès-là, vraiment on a besoin de vous. Si ça demande à organiser les cars pour aller soutenir notre camarade, il faut qu'on aille, parce que comme j'ai dit tout à l'heure, ce qui est arrivé, ça peut vous arriver aussi. Donc on ne lâche pas. Vous voyez, quand il y a un procès par les familles des victimes, la salle de audience s'est remplie, les policiers. Pourquoi pas nous? Levez-vous ensemble.
Merci. C'est très important du coup d'avoir une parole autour des inculpés là, du 8 décembre. Moi, je vous rappelle qu'il y a des gamins qui se sont fait arrêter dans les quartiers suite aux révoltes au sein de la RAR, donc le collectif antiraciste qu'on est en train de monter. On veut monter une légale team antiraciste on a besoin de monde. On est quelques-uns déjà sur le charbon de ça, mais avec la prise des fourgons aux mortiers, tout ça, enfin des tonnes de mortiers, qu'ils appellent mortiers, mais c'est en fait des feux d'artifice. Voilà, il y a tout un discours de guerre autour des jeunes qui se font arrêter. Il va falloir les soutenir parce que, comme disait le camarade, après les violences policières, il y a les violences judiciaires, les violences pénitentiaires. On aura vraiment besoin de monde. Évidemment, nos groupes sont racisés, mais on accepte les alliances avec les personnes non discriminées. Tant qu'elles se mettent au service et qu'elles ne sont pas décisionnaires sur les stratégies. En tout cas, on a besoin de monde, vraiment, sur le juridique. C'est des gamins et des familles qui vont devoir être soutenus. Il y a une coordination nationale des avocats qui est en train de se mettre en branle dans toute la France. Il s'agit de créer une antenne ici à Rennes, voilà, pour faire le lien avec tout ça, se partager de la documentation, se partager... aussi les procédures. Voilà, donc on a un Instagram et un mail et tout ça. Il faudra pas hésiter si vous avez un peu la force à donner. Donc là, pour l'instant, pour la séquence sur les paroles ancrées, je donne une dernière parole à madame. C'est Tarek qui va aider à exprimer pour lui faciliter.
On va parler, c'est...
Est-ce que... Ok. Bon, je vais porter la parole de la famille Alouchi qui s'est présentée à l'instant. La famille Alouchi a 7 enfants en France. 3 sont nés en France. Les 3 derniers et 2 sont placés au centre de l'enfance à Champy. Les autres ont été placés. La famille Alouchi est sans domicile. Ils sont sous le coup à la fois de l'administration, de l'aide sociale à l'enfance, aucune aide au niveau de l'hébergement et du logement. Et ils demandent de l'aide. Ils tapent à toutes les portes et ils n'en reçoivent pas. Et quand ils ont vu notre rassemblement, ils ont demandé à rendre visible leur situation. La famille Alouchi ici présente à un numéro de téléphone. Si ici parmi nous il y a des personnes qui souhaitent les aider, je garderai ce numéro de téléphone et je le transmettrai à toutes les personnes qui aimeraient, pourraient, à la possibilité de donner un coup de main à une situation de précarité énorme qui touche particulièrement les familles albanaises qui sont considérées comme roms ici, sous le vocable roms en France, et qui sont certainement parmi les groupes de population les plus écrasés et les plus humiliés de ce pays. Est-ce que vous voulez dire quelque chose ?
Juste là, ils aident pour Simon malade.
Son fils Simon est malade. Il est actuellement au centre de protection de l'enfance de Champy, à la Louvrie, pour ceux qui connaissent. Il n'y a aucune aide, aucune intervention sociale pour le moment. Donc là, on fait vraiment un appel à se rapprocher de... Bah de moi, en tout cas, je transmettrai les numéros de téléphone. Et elles ont voulu rendre visible quand elles ont vu qu'il y avait des personnes qui filmaient. C'est très courageux de leur part, mais là, il y a quelque chose de désespéré et de désespérant. Voilà.
Les violences policières depuis Nanterre jusqu'aux frontières. À bas, les violences policières depuis Nanterre jusqu'aux frontières. À bas, les violences policières depuis Nanterre jusqu'aux frontières. À bout portant, à même pas 18 ans, la police tue même les enfants. À bout portant. À même pas 18 ans, la police tue même les enfants. Maintenant, pour la séquence d'après, on va ouvrir la parole aux camarades proches politiques.